Comment ça va, mon Ricky?
J'avais tellement hâte de te parler ce matin quand j'ai lu que Christian Horner était expulsé de son siège du directeur chez Red Bull. J'ai dit, Greg va me l'expliquer.
Écoute, comment t'expliquer ça? Et on a passé l'extrait tantôt. Tu te souviens
Ouais.
certainement du film Batman The Dark Knight sorti
Ouais.
en 2008, mon ami, dans lequel le Harvey Dent. Je ne sais pas comment traduire son titre, mais District Attorney Harvey Dent dit soit tu meurs en
Procureur
étant
général.
le procureur général dit soit tu pars en étant le héros ou tu restes assez longtemps pour que tu sois vu comme le vilain. Mais c'est rendu un peu ça avec Christian Horner présentement. Une relation difficile avec Max Verstappen. On veut garder Max Verstappen, l'empêcher de partir chez Mercedes. Là, Red Bull sont sans Adrian Newey, sont rendus quatrième au championnat des constructeurs. Le développement de la voiture va pas bien. Le développement pour 2026 n'est pas en avance. Il y a eu le dossier qui est en justice avant la saison 2024 également. Et le cas Sergio Perez aussi. Combien ça a coûté de couper ce contrat-là? Sergio Perez a été renouvelé à moyen terme avec Red Bull alors que ses performances n'étaient pas du tout au rendez-vous. Puis on l'a signé et en plus, il amenait plein de commanditaires. Donc là, finalement, on a dû congédier Sergio Perez, ou on l'a congédié, on a pris la décision de revenir là-dessus. Il a fallu payer une pénalité en résiliant son contrat et on a perdu ses commanditaires-là en plus. Donc tout ça mis ensemble, ça fait que même si on a 6 championnats des constructeurs, 8 championnats des pilotes, Horner est parti.
Quand même, je viens de le dire, là, 4 avec Vettel, 4 avec Verstappen, 6 championnats des constructeurs, il est out en plein milieu de la. Le timing est particulier. Puis moi, je lis que Horner aurait des discussions avec Ferrari.
Il y a quelques rumeurs qui courent effectivement, comme quoi
Voilà.
qu'il y aurait des discussions avec Ferrari. Mais chez Ferrari, écoute, est-ce que Horner va être capable de changer la machine chez Ferrari? J'en doute fort. Et aussi, est-ce qu'il aura ce qu'il veut chez Ferrari? Lui, il va être copropriétaire d'une écurie, Eric.
Ben, il
C'est
voulait
la
être
prochaine.
copropriétaire de Red Bull. Il ne sera
Ça n'a
jamais
pas fonctionné.
copropriétaire de Ferrari.
Il ne sera jamais copropriétaire de Ferrari, mais est-ce que c'est possible chez Alpine? Est-ce que c'est possible chez Cadillac? Est-ce que c'est possible dans une 12e équipe, je veux dire, qui s'en viendra d'ici quelques années? Ça se peut.
Cadillac, c'est à tout prix pour qu'il rentre en Formule 1. Ça ne sera pas évident pour lui d'arriver avec une nouvelle équipe. Moi, je te dis, il n'y a pas de fumée sans feu. Ferrari, avant même qu'il soit congédié aujourd'hui, il y avait déjà eu des discussions. Informel, parce que Vasseur, on sait qu'il est lui aussi précaire dans sa situation. T'sais, je ne dis pas qu'il est responsable des attentes, de ne pas répondre aux attentes chez Ferrari, je ne dis pas ce qu'il est, mais je te dis que c'est un gars qui a quand même, je te parle de Horner, qui a quand même un pedigree assez impressionnant. Oui, il y a eu un raté l'année passée. Je pense que le fait qu'il voulait devenir copropriétaire, le fait que Charlem Youvidia était de son côté, puis il l'a abandonné clairement ce matin. Il l'a abandonné en disant, écoute, that's it, vous pouvez le congédier, parce que tant que lui aurait dit non, ça ne serait pas arrivé. Fait que là, ben, aujourd'hui, on se retrouve dans un moment assez particulier où, oui, on est à mi-saison. Ben, j'ai hâte de voir la suite pour. Puis je pense qu'aussi, c'est comme tu dis, on veut tout faire pour garder Verstappen, parce que Toto Wolff, lui, de son côté, il attend. Zak Brown, lui, il continue à ajouter de l'huile sur le feu avec ses déclarations incendiaires envers Red Bull et Horner. C'est vraiment particulier. C'est vraiment, tu sais, c'est des requins dans la Formule 1.
Ah, c'est sûr et certain. Et puis, tu sais, cette rivalité-là entre Toto et Horner sont des très bons amis, là, en dehors de cette
Oui.
guerre-là qu'on voit notamment dans Drive to Survive, là, quand notamment, c'est sûr que vous vous souvenez de ça si vous avez regardé Drive to Survive. Christian Horner qui regarde Toto Wolff. Toto Wolff qui veut qu'on travaille sur des règlements, des échanger et tout ça. Puis, Christian Horner qui se penche et qui dit la solution est simple. Fix your effing car. C'est ça qu'il lui dit. Et Toto qui revient l'année d'après en lui disant, toi, ta voiture, elle est, je peux pas dire le mot. Et il dit, Checo l'a dit avant que vous le congédiez. Puis maintenant, vous avez à dealer avec cette situation-là. Écoute, mais Zach Brown et Christian Horner, ça, je peux te le dire, c'est pas invité au même party.
Non, non, non. Puis Zach Brown avait fait des déclarations dans les dernières journées. Fait que, ça s'en venait probablement avec ce qui s'est passé l'année passée. Puis la... les différends qu'il y a avec le papa de Max Verstappen. Puis là, ben, c'est arrivé aujourd'hui. Je te le dis, il ne restera pas longtemps sans emploi. Je suis convaincu de ça. Puis si ce n'est pas cette année, ça va être au début de l'année prochaine ou à la fin de cette saison, il va se retrouver du boulot. Puis il va vouloir revenir le couteau entre les dents. Parce qu'il était quand même bon. Son pedigree parle pour lui-même. Il a fait des erreurs, c'est sûr. Mais tu sais, il n'y en a pas de voiture qui sont dominantes pendant 15 ans de suite ou 10 ans de suite. Tu comprends?
Non,
tout le monde
ça, c'est
des puis, ce qui arrive aussi, c'est les changements qui vont y arriver sur les voitures en 2026. C'est un changement important. Alors, tu sais, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Verstappen, je pense qu'il va rester avec Red Bull, mais peut-être qu'il va sauter lui aussi puis il va décider de partir.
Ouais, je suis pas sûr, moi, que je sais pas s'il va rester avec Red Bull tant que ça. Je veux dire, quand tu regardes ce qui se passe avec l'écurie, tu sais, je veux dire, t'as beau changer. Et Laurent Mekies, qui a fait tout un travail avec Racing Bulls, qui est maintenant rendu président et directeur d'écurie chez Red Bull. On lui a donné toute une promotion, avec raison. C'est un gars très humain qui, je suis certain, va faire progresser cette écurie-là, qui est présentement, on l'a dit, le quatrième au championnat des constructeurs. Mais c'est long. Fixer une voiture en Formule 1. Quand il y a des problèmes de cette façon-là, écoute, Max extrait le maximum de la performance, mais il se plaint tout le long d'une course et ton coéquipier n'est même pas capable de finir dans le top 10. C'est à peine si on a des points. Si ce n'était pas de Max, on serait dernier au championnat des constructeurs. C'est fou raide la débarque que Red Bull a pris après avoir été la meilleure écurie et de loin.
Bien, Mercedes, c'est ce qui est arrivé après, quand ils ont perdu leur championnat. Le premier championnat de Red Bull, après ça, Mercedes, c'était difficile. Ils reviennent cette année, mais tu sais, ils étaient tellement dominants. Mais je te le dis. Puis l'autre chose, quand tu parles que Max se plaint beaucoup, maintenant qu'on a accès aux conversations entre le puits et le pilote, tous les pilotes se plaignent presque, tout le temps. Pas d'adhérence sur leurs pneus, comprennent pas les stratégies, sont toujours fâchés contre quelque chose qui est arrivé en course. Fait que, tu sais, ils se plaignent tout le temps. Je pense que c'est la nature des pilotes de toujours en vouloir plus, être exigeant. Mais c'est une grosse nouvelle. C'est un gros séisme aujourd'hui dans le monde de la Formule 1.
C'est sûr et certain. Je l'ai dit, tu sais, à plus petite échelle, moi, ici à Montréal, j'ai reçu plus de textos pour ça que pour Lewis Hamilton chez Ferrari. Faut le faire pareil, là.
Ben, puis avec raison, parce que Lewis, ben c'était surprenant aussi, Lewis, chez Ferrari. Puis je pense que tu vas en avoir d'autres, moi, parce que je te le dis, ça va bouger. Là. Horner disponible, tu ne gardes pas un gars comme ça disponible, tu vas vouloir aller le chercher. Je ne sais pas quelle écurie va aller le chercher, mais je te reviens. Ce que je lis du côté de l'Europe aujourd'hui, ce matin, j'essayais d'en apprendre un petit peu. Il y a des tractations avec Ferrari.
Oui, mais des tractations avec Ferrari, il y en a tout le temps. Ça, si tu veux, mon humble avis.
Mais tu sais, Ferrari est à la recherche de l'étincelle.
Oui, absolument. Mais est-ce que le problème est vraiment Fred Vasseur?
Non, il n'est pas. Non, il n'est pas. Mais eux autres vont chercher, tu sais, tu cherches tout le temps la personne qui va venir sauver, tu sais, le nouveau joueur, le nouveau directeur d'écurie. Tu cherches tout le temps quelqu'un, le nouvel ingénieur. Adrian Newey, là, c'est pas encore concluant du côté de...
C'est normal parce qu'il a dit que lui arrivait pour la voiture de 2026. Oui. Il a vu les plans d'amélioration pour 2025. On verra ce que ça donnera en 2026 pour Adrian Newey.
J'ai hâte de voir, moi aussi, de ce côté-là. Fait que, tu sais, à suivre.
Mais mettons là, que ça arrive. On va aller à la pause là-dessus parce qu'il faut parler de la NCAA et de Paul Skeens aussi. Mais mettons que ça arrive. Là. Dans quel monde t'aurais vu il y a tout juste deux ans et demi, admettons, là, en plein milieu de la domination de Red Bull, tu aurais vu Christian Horner, directeur d'écurie, avec Lewis Hamilton chez Ferrari. Mettons là, que ça arrive. Là.
Ben, écoute, c'est sûr qu'après le coup, c'est facile à dire, mais si tu regardes l'histoire de la Formule 1, ce serait pas la première fois, tu comprends? Je veux dire, les pilotes, Senna a bougé, il y a des grands pilotes qui ont bougé, Prost a bougé. Fait que, tu sais, dans le cas de Horner, puis Lewis, c'est pas arrivé à 25 ans ou à 26 ans. Lewis, ça arrive à la fin de sa carrière. Il reste peut-être encore 3 ou 4 ans, je ne sais pas, mais ça arrive à la fin de sa carrière. Puis Lewis, c'était pas glorieux du côté de Mercedes la dernière année qu'il était là. Lui aussi, il se plaignait tout le temps.
Ben, tu sais, Ferrari sont toujours bien deuxième actuellement au championnat des constructeurs. Ils sont très, très loin, mais sont deuxième pareil, Éric. Tu trouves que c'est un coup dur, toi, pour la CHL de voir que Gavin McKenna choisit la NCAA? Ça a été officialisé aujourd'hui.
Ouais. L'été passé, je t'en avais parlé de ces rumeurs que peut-être les joueurs pourraient se promener entre les deux pays, si tu veux, là, la ligue, les ligues canadiennes de hockey junior puis collégial américain. Ça s'est officialisé à l'automne quand c'est les instructeurs des programmes de Division 1 qui devaient voter. Je t'avais dit, je ne sais pas exactement où ça va s'en aller, mais j'ai des inquiétudes. Puis là, ben, c'est en train de se concrétiser, malheureusement. Le dernier chapitre n'est pas écrit, mais aujourd'hui, c'est un chapitre qui fait mal d'abord aux Tigers de Medicine Hat, mais à la Ligue de l'Ouest aussi, mais aux Ligues canadiennes juniors, parce que ça va être ton choix numéro un, probablement, ça peut changer, mais c'est celui qu'on envisage comme ton choix numéro un au repêchage 2026. C'est un Canadien en plus qui s'en va jouer aux États-Unis. Je te dirais que, il s'en va pas jouer n'importe où, là. Il s'en va pas jouer dans un programme hyper prestigieux comme Boston College, Boston University. C'est un nouveau programme de hockey, Penn State. Ils sont dans le Big Ten, mais c'est pas un programme qui a eu une longue tradition de hockey Division 1. Ils avaient du hockey, mais ils n'étaient pas en Division 1. Là, ils s'en vont là. Puis, je me demande qui d'autre vont vouloir l'imiter. Parce que ce qu'on se disait au début, c'est « Ah, les gars de 20 ans, ils vont venir dans la ligue LHJMQ, ils vont venir finir leur parcours là. » Non, là, ce qu'on voit, là, c'est des jeunes de 17 ans qui vont être repêchés l'année prochaine, qui s'en vont, parce que là, Matthew Schaefer n'a pas encore officiellement dit où il retournait. Même chose pour Michael Missa. C'est sûr que ces deux joueurs-là vont vouloir faire l'équipe à Uniondale, et aussi à San Jose. Mais advenant le cas, parce qu'ils n'ont toujours pas signé de contrat, dès que tu signes un contrat d'entrée avec une équipe de la Ligue nationale, tu ne peux pas retourner collégial américain. Mais tant que tu n'as pas signé ton contrat, tu es éligible à changer de programme. Puis il y a 60 équipes, au dernier des comptes, dans les ligues canadiennes juniors, mais tu as 60 programmes NCAA Division 1. Puis je tiens à préciser le mot « programme », Greg, parce que les équipes juniors majeures font rien de mal, là. Moi, j'en ai visité cet hiver. C'est des vestiaires extraordinaires. C'est du monde compétent. La Ligue de hockey junior maritime Québec fait rien de mal. Sauf qu'elle peut pas compétitionner quand un programme athlétique universitaire qui a un campus, qui ont plusieurs sports, qui paye maintenant depuis quelques années. Maintenant, on les paye, les joueurs, principalement au hockey et au basket, au football et au basketball. Mais bientôt, les joueurs vont pouvoir avoir des commanditaires. Et maintenant, depuis un règlement hors cours il y a quelques semaines, les universités peuvent payer directement, entre guillemets, un salaire aux athlètes. Les gars vont arriver pro-millionnaires dans la plupart. Ça va être difficile de compétitionner pour les ligues juniors au Canada. Et je me demande si ça ne passe pas par, si on ne veut pas les payer plus, ben, comme certains de tes auditeurs ont dit, il va falloir faire peut-être des divisions. Parce que 60 équipes, c'est peut-être beaucoup. Peut-être une division 1. Puis peut-être une division 2. Il va falloir trouver des façons de faire face à ça parce que c'est pas terminé. Et je te dis, dans deux ans, où va aller, ou l'année prochaine, où va aller le prochain joyau canadien, Landon Dupont? Va-t-il décider d'aller aux États-Unis lui aussi? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Mais il va falloir que les ligues canadiennes juniors fassent un ajustement. Ils ne peuvent pas continuer avec le statu quo.
Ben oui, mais en même temps, est-ce que de quelle façon les équipes peuvent faire un ajustement? Tu comprends ce que je veux dire? Comment tu veux rivaliser avec ça? Moi, c'est la question que je me pose. On dit donner plus d'argent. Bien, donner plus d'argent, les organisations les plus riches sont-elles en mesure de donner cet argent-là à des kids? Tu sais, on parle de 700 000. Ils ne vont pas tous gagner 700 000, on le sait. Mais Arnaud en parlait. Disait, le 700 000 d'aujourd'hui, ça va être combien dans 5 ans? Ça va être combien dans 10 ans? Donc, il y a énormément de questions à se poser présentement. Puis, est-ce qu'on va devenir un passage obligé ou un passage, comment je dirais ça, logique pour les joueurs dans leur développement, puisque ça reste des excellentes ligues de développement avec un très, très bon niveau de hockey pour les jeunes qui vont entrer dans ces ligues-là, mais quand ils sont en âge d'aller dans la NCAA, c'est là que le bas blesse, là.
Mais tu sais, c'est pas une question de qualité du hockey junior canadien, là. C'est pas de ça que je parle. Pas du tout, du tout, du tout. C'est pas ça que je remets en question. Mais ce que je veux te dire, c'est que naturellement, tu sais, je te prends le modèle américain. Ils sont beaucoup plus nombreux que nous. Je veux pas faire comparer des pommes et des oranges. T'as 60 programmes en division 1. T'as 6 programmes au dernier des comptes. T'as 6 programmes en division 2. Division 1, tu peux payer pleinement les joueurs au niveau académique, mais au niveau aussi athlétique. En division 2, t'as pas le droit de payer, mais il y a juste 6 programmes. En division 3, tu as à peu près 80 programmes de hockey, mais tu ne peux pas payer au niveau athlétique. Tu peux juste les rémunérer au niveau académique, donc des bourses d'études au niveau académique. Fait que, tu sais, la manne est grande. Ce qu'on doit faire ici au Canada, je pense, éventuellement, en tout cas, explorer la possibilité, c'est dire l'argent qui est disponible pour le hockey canadien junior, on doit le répartir entre 60 programmes ou 60 équipes. Peut-être qu'il faut réduire un petit peu pour en donner un petit peu plus et garder notre talent ici, puis faire peut-être un modèle hybride où il y a des relégations, délégations selon les performances. Je n'ai pas la réponse. Puis c'est pas une question du talent et du niveau de qualité de hockey. C'est juste que, je te donne un exemple, Greg. Le gars qui s'en va junior majeur, là, bon, Carbonneau et Desnoyers n'ont pas déterminé encore ce qu'ils vont faire. Okay? Ils vont attendre. Mais normalement, le gars, là, il s'en va, le gars qui s'en va pour une équipe junior majeure, s'en va au camp d'entraînement mi-août. Chris de terminer sa saison au mois de mai. Peut-être fin mai s'il va à la Coupe Memorial. Gavin McKenna commence sa saison un petit peu avant le 3 octobre. C'est son premier match. Sa saison va se terminer s'il va au Frozen Four en mi-avril. Plus de temps pour s'entraîner, meilleure qualité de vie, moins d'usure pour ton corps. Puis, s'il a choisi ce programme-là, c'est pas pour rien. Jouer contre des gars de 21, 22 ans, ça, il n'y a rien que les Ligues canadiennes juniors peuvent faire, à moins qu'ils changent
l'âge. Non, mais c'est ce que je dis. Il y a une certaine partie qu'on contrôle, puis il y en a une qu'on contrôle pas.
Exact. Fait que, tu sais, quand ton début c'est arrivé, je me rappelle très bien, beaucoup de gens ont dit « Wow! Les gars, vous s'en viennent tout au Canada, parce que c'est là qu'il y a le meilleur hockey. » Et moi, je le disais à tout le monde, « Attendez, je suis pas convaincu. » Parce que je le vois, quand j'étais plus impliqué dans le hockey mineur, je voyais l'attrait de tous les parents ou presque toutes les familles pour les programmes américains. On veut aller aux États-Unis, on veut aller dans les prep school américains. Pas parce qu'il n'y a pas des bons programmes ici, mais c'est parce qu'il y a peut-être une qualité de vie, des campus, une mentalité pour le développement. Et le hockey, c'est un développement tardif. Ça veut dire qu'ici, au Québec et au Canada, si à 16-17 ans, tu n'es pas arrivé, on te regarde moins. Au hockey, on peut te regarder jusqu'à 20, 21, 22 ans. Fait que, tu sais, il y a plusieurs choses à regarder puis à analyser là-dedans. C'est encore trop tôt. Les ligues canadiennes peuvent faire un ajustement. Je ne sais pas si les gouvernements peuvent aider. C'est à suivre. Je ne sais pas si les compagnies privées peuvent aider aussi. Mais, tu sais, il n'y aura jamais l'argent disponible aux États-Unis. Au Canada, il n'y en aura jamais pareil.
Tu voulais me parler de Paskins, qui n'est plus le seul jeune prodige dans la MLB maintenant.
Ben écoute, il a émergé l'année passée, Paskins. Il a frappé l'imaginaire de tout le monde, 6 pieds 6, lance des balles de feu. Je veux dire, il est extraordinaire. Tu le sais, Greg, tu gravites là-dedans. Sa carte de recrue valait beaucoup d'argent. Et là, cette année, ben, il y en a un autre qui a le même profil que lui et qui joue dans la même division. Parce que des bons jeunes lanceurs, il y en a plein. Il y en a à Détroit. Tarik Skuba, ça fait 3 ans qu'il est là, il est très bon. Mais là, Jacob Mizorowski, Skeens est 6 pieds 6, l'autre est 6 pieds 7, lance des balles encore plus rapides que Skeens, a une balle rapide en moyenne à 99 000 à l'heure. Sa balle glissante est 95 000 à l'heure. 12 retraits sur 3 prises contre les Dodgers. Première fois qu'il affronte Otani. Otani a frappé un circuit. Après ça, il l'a retiré, je pense, sur une troisième prise à 101 000 à l'heure. Ce gars-là est à suivre. Ça va être un beau duel pour les prochaines années parce que les Brewers et les Pirates, si Skeens reste avec les Pirates, parce qu'il n'y a pas une semaine où il n'y a pas des rumeurs que Skeens va être échangé parce que les Pirates vont nulle part, mais j'espère que ce ne sera pas le cas, mais ça va être une belle rivalité entre ces deux équipes-là et entre ces deux joueurs-là. Là, naturellement, cette année, Skeens avec les Pirates sont 17 parties en arrière. Les Brewers sont à 2 parties en arrière dans leur division. Mais regarde ça, va le voir lancer, ce jeune gars-là, 10 pieds 7. Il est hallucinant à voir. Il est vraiment beau à voir. C'est deux beaux lanceurs qui ont le même profil. Fait que, tu sais, pour le baseball majeur, c'est de l'or, ces deux gars-là.
Ben oui, c'est sûr. Puis, tu sais, ça fait plusieurs étés qu'on en discute ensemble. Maintenant, dans la MLB, il y a un ou plusieurs jeunes joueurs spectaculaires par équipe dans plusieurs positions. Le baseball a cette... tu sais, oui, les équipes riches, puis les Dodgers vont continuer de gagner, puis les Yankees vont se rendre loin. Tu sais, puis on a tout le temps... Mais le spectacle qui est offert par plusieurs des équipes dans la MLB, avec les jeunes joueurs qui sont là, puis tu sais, les Brewers de Milwaukee en font partie. Tu parles de jeunes lanceurs-là, mais... Tu as également un certain Jackson Chourio qui est très, très jeune, qui est un jeune prodige aussi. Donc, écoute, tant mieux si on peut avoir ça dans des petits marchés comme Milwaukee. Écoute, Ellie De La Cruz qui est à Cincinnati également. Bobby Witt qui est à Kansas City avec les Royals. Puis Paul Skeens qui est à Pittsburgh. Puis je veux dire, on pourrait en nommer plusieurs comme ça. Alors, ça donne des bonnes raisons aux partisans de venir voir ces joueurs-là jouer et d'investir dans leur équipe puis de les supporter.
Et en terminant rapidement, ce que le baseball majeur fait vraiment de très bien, puis à BPM, on est bien placé pour admirer ça, leurs réseaux sociaux, là, c'est extraordinaire ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont en train d'en mettre en vedette dans des petits clips, des moments, des situations, des joueurs, je te le dis, là, tu regardes ça, tu fais comme, OK, wow, ils sont en train de rendre le baseball attrayant pour les jeunes. Fait que bravo au baseball majeur. Tu sais, je veux dire, il y a encore du travail à faire, mais c'est passe par les joueurs que tu viens de nommer et ces deux lanceurs-là, l'avenir du baseball. Et tu sais, on est juste au mois de juillet, puis les Blue Jays aussi qui vont très bien. Donc, c'est vraiment là, ils vont avoir toute la place encore pendant quelques semaines avant que le football revienne puis le hockey revienne.
Ouais, ça, c'est une autre bonne nouvelle des Jays. On pourra en reparler ensemble vendredi, mon cher ami. Merci, bien gros, encore une fois, d'avoir pris ces quelques minutes, mon cher Eric. Puis,
toujours un plaisir, mon ami, toujours un plaisir. Salut à tout le monde et à Bob Hartley. Puis on se reparle vendredi.
C'est sûr que je passe tes salutations, mon cher Eric.
Ça marche. Bye-bye.
Salut. Bye-bye.